Alors, ce matin, on sort d'un Pierre. On s'en va dans un autre passage, on s'en va dans l'Évangile de Jean. On veut s'adapter au dimanche de Pâques, aborder un passage qui nous parle de la résurrection. Parce que la fin de semaine de Pâques, le vendredi, on souligne la mort de Christ sur la croix et le dimanche, la résurrection de Jésus-Christ. J'ai pensé aller dans le passage de Jean 11, où Jésus va faire un miracle, il va faire une résurrection, qui n'est pas la sienne, mais qui parle beaucoup de lui. Et on va s'arrêter sur deux versets en particulier, mais avant que Stéphane nous lise ce long passage, 44 versets, je voulais prendre le temps juste de se mettre en contexte un peu, vous donner un peu le contexte du récit. Donc, ce qui se passe, c'est que Jésus avait un ami intime à lui qui s'appelait Lazare. Puis Lazare tombe très, très malade, et tout le monde savait que Jésus faisait des miracles. Alors, dès que Lazare est tombé gravement malade, on a dépêché vers Jésus quelqu'un, un messager, pour aller dire à Jésus, qui était beaucoup plus loin, à plusieurs jours de marche, lui dire, écoute, dépêche-toi de t'en venir, ton ami Lazare est très malade. Maintenant, lorsque Jésus arrive, Lazare est décédé. Puis en fait, vous porterez attention dans le texte, Jésus semble même faire ça volontairement. Et ce qu'on découvre dans le passage, c'est que Jésus va pratiquer un miracle, il va ressusciter Lazare, et peut-être que vous ne croyez pas dans ça, on y reviendra tantôt dans le message. Mais il va ressusciter Lazare, et en fait, cette résurrection-là est davantage là pour nous faire connaître qui est Jésus-Christ et quel est son message. Parce que si on y pense comme il faut, le pauvre Lazare ne va pas juste ressusciter, il va remourir aussi, vous comprenez? C'est une résurrection temporaire, cette affaire-là. Ce n'est pas la résurrection pour l'éternité. Et donc, sa résurrection à lui nous permet de connaître davantage qui est Christ et qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous. Et c'est ça qu'on va aller voir ensemble ce matin pour plonger un peu dans le message que Pâques a pour chacun d'entre nous. Permettez-moi de prier. Père éternel, on veut s'approcher humblement devant toi, Seigneur, avec un cœur rempli de reconnaissance. On veut t'adorer parce que tu es un Dieu juste et saint, mais tu es un Dieu d'amour aussi. Tu es un Dieu qui aime. Tu es un Dieu qui donne la vie à chaque être humain, mais qui nous a redonné la vie aussi en Jésus-Christ. Père, merci pour ton Fils qui a quitté la gloire, pour venir s'incarner, se faire homme. Seigneur Jésus, on veut t'adorer, toi, parce qu'on découvre dans ce passage ta grandeur, non seulement ton amour, ta générosité pour t'offrir en sacrifice, mais vraiment ta majesté. Et je te prie, Père, ce matin, de venir parler à nos cœurs. Viens, Seigneur, appliquer ce passage dans nos cœurs personnellement. Seigneur, Lorsque Marie apprend qu'un jour Lazare va ressusciter, Jésus veut rendre ça encore plus personnel pour elle. Il veut se révéler lui à elle intimement, Seigneur. Et c'est ma prière pour nous ce matin. Permets ce matin, Seigneur, que cette résurrection, cette personne extraordinaire que tu es, Seigneur Jésus, ça puisse devenir une relation personnelle pour nous. Et que ça vienne remplir nos cœurs d'adoration. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Bonjour. La lecture de ce matin a lieu va être tirée de l'Évangile de Jean au chapitre 11. Je vais lire les versets 1 à 44 dans la nouvelle édition Genève. Jean, chapitre 11, les versets 1 à 44. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient encore à te lapider et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui, qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. »
Merci Stéphane. Alors ce matin, je voudrais me concentrer sur 2 versets. C'est un long passage, c'est un passage qui est très, très riche. Mais en même temps, les 2 versets sur lesquels on va s'arrêter sont riches, puis ça mérite de s'arrêter même pour un message. Les 2 versets, c'est les versets 25 et 26, je vous les relis. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Puis je pense que ce qui est en train de se passer dans ce passage-là, c'est que Marie attendait que Jésus arrive plus tôt. pour faire un miracle, simplement pour guérir son frère. Puis maintenant, son frère est décédé. Puis Jésus lui dit, oui, mais il va vivre, il va ressusciter. Marie répond avec sa théologie juive. Elle croyait comme Jésus, comme les pharisiens croyaient qu'il va y avoir une autre résurrection, il va y avoir une autre vie, donc il va y avoir une résurrection des corps. Puis elle dit, oui, je sais qu'il va vivre, Seigneur, mais ça change pas grand-chose à ma peine ici, maintenant. Et ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire, oui, mais je veux rendre ça plus personnel encore pour toi. On va rendre ça encore plus personnel dans ce que tu as besoin de découvrir de moi. Et c'est ça qu'il est en train de révéler à Marie. C'est dans ça qu'on va plonger ensemble ce matin. Il lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Qu'est-ce que Jésus veut dire par « Je suis la résurrection et la vie. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire par ça? Est-ce qu'il est en train juste simplement de dire ce que tous les chrétiens croient? On croit effectivement que Jésus est venu mourir vendredi saint sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts le dimanche. Puis, ça rend possible notre salut. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Si je place ma foi en lui, un jour je vais être réuni avec Dieu. Est-ce que c'est simplement ça qu'il est en train de dire? Ou est-ce qu'il y aurait plus que ça? Tous les chrétiens croient ça. Je pense qu'il y a plus que ça dans le passage. Je pense que Jésus est en train de révéler sa personne à lui, qui il est. Ce matin, on est le dimanche de Pâques, on veut adorer Christ. On veut reconnaître, on veut connaître qui il est. Je pense qu'il est en train de révéler sa personne. Il est en train de parler de lui, non seulement de ce qu'il vient faire pour nous, mais qui il est, lui. Et je pense que les mots « résurrection » et « vie », ce n'est pas la même chose. Je pense que Jésus est en train de parler de deux choses différentes. Je pense qu'il est en train de parler de deux aspects du salut, deux aspects différents du salut. Puis il l'explique dans la phrase qui suit. C'est ça qu'on va décortiquer ensemble un peu ce matin. Voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. Jésus-Christ est venu mourir et ressusciter pour nous assurer la vie éternelle et une vie nouvelle dès maintenant. Parce que Jésus est la vie. Parce que Jésus est la vie. Jésus est la promesse de ta résurrection. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc, quand j'étudiais le texte, quand j'étudiais le passage, j'en suis venu à la même conclusion que Don Carson, c'est que Jésus nous donne cette déclaration-là, « Je suis la résurrection et la vie. » Puis après, dans la phrase qui suit, avec la première partie de la phrase, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par résurrection. Puis par la deuxième partie de la phrase, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par vie. Donc lorsqu'il dit « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt », je pense qu'il nous aide à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit qu'il est la résurrection. Puis lorsqu'il dit « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais », je pense qu'il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire en disant qu'il est la vie. C'est vraiment deux aspects important, complémentaire de la foi chrétienne puis de l'expérience de toute personne qui place sa foi en Jésus-Christ. Deux aspects complémentaires de ce qu'on vit comme chrétien. Si on place notre foi en Jésus-Christ, on va vivre ça. Je suis la résurrection. Jésus avait annoncé, à partir de Jean 5 au moins, Jésus avait annoncé que lui, le Fils de Dieu, avait une autorité telle qu'il avait autorité même sur la mort, qu'il avait le pouvoir de donner, d'accorder la résurrection. On lit dans Jean 5 au verset 25, c'est Jésus qui parle et il dit, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » On est dans Jean 5, ce matin on est dans Jean 11, d'accord? « Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. » C'est comme si ce qui se passe avec Lazare, c'est une réalisation de ça, c'est une illustration de ce qu'il a dit plus tôt. Parce qu'il a dit « Ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu vivront. » Jésus se tient devant le tombeau de Lazare puis il dit « Lazare, sors !» Puis il sort. Et peut-être que vous ne croyez pas à ça, vous ne croyez pas aux résurrections, puis vous dites « c'est moi je décroche ici », mais les chrétiens croient profondément que chaque être humain a une âme, qu'on est des êtres sacrés. Les chrétiens ne croient pas qu'avec la mort, tout s'arrête, c'est terminé. Pour un chrétien, la mort, ce n'est pas la fin du monde, littéralement. Et donc, nous, on croit qu'on a une âme, puis on croit qu'il y a un Dieu créateur qui est à l'origine de tout ce qu'on voit dans l'univers. On ne croit pas dans un pur accident. Puis encore là, même s'il y avait un accident, qu'est-ce qui serait derrière l'accident? Ça, c'est des bonnes questions. Mais les chrétiens croient cela. Puis à partir du moment où je crois qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers, la question pour moi, ce n'est pas de savoir est-ce que ce Dieu-là pourrait faire des résurrections. La question pour moi, c'est juste de savoir si Jésus est vraiment le Fils de Dieu. La question pour moi, c'est juste de savoir si la Bible est vraiment parole de Dieu ou si ça serait juste des mythes, des fables écrits par les hommes. Et si tu veux explorer cette question-là plus sérieusement, je t'invite à lire l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, des quatre évangiles, c'est celui qui exalte Christ comme aucun autre, d'une manière vraiment extraordinaire parce qu'il nous révèle une part de la personne de Jésus-Christ comme les trois autres évangiles ne le révèlent pas. C'est mon évangile préféré aussi. Donc, d'une part, Jésus est en train d'annoncer la vie éternelle. Mais voyez-vous, l'ironie, c'est que quelques temps plus tard, avec son ami Lazare, il va faire la démonstration qu'il a vraiment l'autorité. Qu'il a vraiment l'autorité de ressusciter les morts. Il va en faire la démonstration. Un petit peu plus loin dans le même passage, dans Jean 5, Jésus dit ceci. « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Un passage assez mystérieux, puis en fait, les disciples n'ont pas pu comprendre ça vraiment avant la résurrection, puis l'ensemble du Nouveau Testament nous aide à comprendre ça, mais ce qui nous est dit, c'est que dans le fond, Jésus n'est pas simplement un homme. Jésus, c'est Dieu le Fils qui s'est fait homme. Il est Fils de Dieu, puis il est devenu aussi un Fils de l'homme. Et ce qu'il est en train de dire dans ce passage-là, c'est que le Père lui a donné toute autorité, tout pouvoir sur la mort et sur la vie. Christ est juge et il a le pouvoir sur la vie. Je prends le temps d'aller citer ces passages-là parce que dans le passage de ce matin, je pense vraiment que Jésus est en train de révéler sa personne. Il n'est pas juste en train de nous parler de ce qu'il peut nous apporter, mais qui il est comme personne. Imaginez un instant que vous auriez vécu de l'époque, puis vous auriez entendu parler de Jésus, puis vous dites, bon, OK, ça a l'air qu'il y a un faiseur de miracles, puis, tu sais, on en entend toutes sortes. Il y en a que ça a l'air vrai, d'autres, ça a l'air des charlatans, puis on va aller voir c'est quoi cette affaire-là. Puis il semble en plus de ça que lorsqu'il enseigne, il est intéressant, il apporte des choses qu'on n'a jamais entendues, ou un angle de vue sur des textes qu'on s'est fait enseigner depuis tellement longtemps, mais un angle différent. Alors imaginez que vous commencez à vous intéresser, vous allez le voir, puis vous dites, OK, il fait vraiment des miracles. Parce qu'en fait, une des choses qui est notable dans le passage, c'est que même ceux qui sont contre lui, qui ne croient pas en lui, croient qu'il fait des miracles. Si on avait continué le passage, on aurait vu ensemble que les autorités juives disent « Écoutez, on est vraiment mal pris parce qu'il fait vraiment des miracles. » Mais nous, on ne croit pas en lui. Fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ils commencent à planifier pour le mettre à mort parce qu'ils disent « Non, mais il va entraîner tout le monde. » C'est trop crédible, son histoire. Alors, vous commencez à le suivre, vous découvrez qu'effectivement, il fait des miracles. Vous écoutez ses enseignements. Puis si vous doutez de la qualité des enseignements de Jésus, comme je vous dis, prenez le temps d'aller lire l'Évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc. Allez le lire. Avant de juger le christianisme, prenez le temps d'aller lire au moins un évangile. C'est quand même un des documents fondateurs de notre culture, de notre société. C'est derrière énormément de la pensée occidentale. Prenez le temps d'aller lire cette année l'Évangile de Jean. Puis là, vous ferez une idée sur les enseignements de Jésus. Fait que tu suis Jésus, tu sais qu'il fait des miracles, ses enseignements sont incroyables. Les spécialistes de la Bible n'ont jamais enseigné comme ça. Ils nous aident à voir des choses qu'on n'a jamais vues comme ça. Ils enseignent avec une autorité qu'ils ne se sont jamais autorisés d'avoir. Puis là, tu te dis, mais c'est qui ce personnage-là? Parce que les Juifs attendaient un Messie. Ils attendaient un Sauveur. Mais Jésus est mystérieux à travers les évangiles. Les disciples sont là, ils suivent, même ceux qui ils collent après, là, puis disent « OK, moi, je veux le suivre. Là. Je pense vraiment qu'on a trouvé le Messie, puis on va le suivre. » Mais ils sont intrigués. Ils essaient comme de le rentrer dans une catégorie qu'ils ont pour ce qu'ils attendent, parce qu'il y avait des prophètes dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui faisaient des miracles, il y a un Messie qui est annoncé, ce Messie-là devait être un roi, il y avait des rois dans l'Ancien Testament. Où est-ce qu'ils rentrent dans tout ça? Puis Jésus est plus grand que tout ce qu'Israël a connu avant, que tous les prophètes qu'ils ont connus, que tous les faiseurs de miracles qu'ils ont connus, que tous les enseignants qu'ils ont connus. Et dans ce verset-là, dans ces deux versets-là, il y a une perle extraordinaire pour saisir qui est Jésus. Jésus emploie une expression en grec lorsqu'il dit « Je suis la vérité et la vie, la résurrection et la vie ». Il est en train d'utiliser une expression en grec, c'est « ego eimi ». Et simplement dans l'Évangile de Jean, il va l'utiliser 7 fois dans l'Évangile de Jean. Il va dire à un certain moment « Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. » Dans un autre passage, où il est en train de débattre avec des autorités juives, les docteurs de la loi commencent à le brasser un peu, puis il leur dit, avant qu'Abraham, Abraham a vécu des centaines d'années avant Jésus. Abraham, c'est le père de la nation juive. Abraham, c'est le héros, l'inspiration des Juifs. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il déclare ça devant les Juifs. Là, les gars veulent le lapider parce qu'ils disent, attends un peu, tu es en train de nous dire que tu existais avant Abraham. Maintenant, tous les théologiens sont d'accord pour dire que Jésus, ici, est en train d'utiliser une déclaration que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament. Il y a un moment dans l'Ancien Testament où un autre des grands prophètes, Moïse, doit aller vers le peuple d'Israël pour les conduire hors d'Égypte. Ils sont esclaves en Égypte depuis très longtemps. Moïse est choisi, doit se présenter devant eux, puis doit leur dire, « OK, les boys, on sort d'ici. » Ce sont des esclaves, tu sais. Fait que les Juifs ne veulent même pas le suivre au départ. Ils disent, regarde, on va commencer une révolte puis on va se faire zigouiller, c'est fini, là. Oublie ça, on ne va pas te suivre. Fait que Moïse dit quand même à Dieu, Dieu se révèle à lui puis il dit, j'ai une mission pour toi. Là, il dit, peux-tu quand même au moins savoir comment je te présenterais pour que ce soit crédible un petit peu mon histoire? Fais-toi en pas, on va faire plein de miracles pour appuyer ça. Mais il lui dit, voici ce que tu vas dire. Dis-leur que je suis t'envoie. Et Dieu est en train de faire connaître à Moïse dans l'Ancien Testament qu'il n'est pas un Dieu qu'on met dans une boîte. Il n'est pas un Dieu qu'on définit comme on le désire. Il dit, je suis celui qui est intemporel, je suis celui qui est, je suis celui qui est hors de toute cause, je suis celui qui est à l'origine de toute cause, je suis la cause, je suis. Et tous les théologiens s'entendent, et les docteurs de la loi qui détestaient Jésus auraient été d'accord avec nos théologiens contemporains pour dire, quand Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, Jésus est en train de faire allusion à ce même passage-là. Parce que Jésus est en train de se révéler qui il est comme personne. Si vous cherchez dans la Bible le mot Trinité, vous ne le trouverez pas. Il n'y a pas le mot Trinité. Peut-être que vous ne savez pas, les chrétiens croient dans un Dieu trinitaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et pour nous, c'est un Dieu. 3 personnes, mais un Dieu. C'est mystérieux pour nous-mêmes. On n'a pas d'explication vraiment super logique. Pour ça, c'est quelque chose que Dieu révèle dans sa parole. Et ce que Christ est en train de faire ici, c'est qu'il est en train de révéler qu'il fait partie de cette Sainte Trinité. Il est comme le Père est. Non pas « il était » ou « il sera », mais « il est ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Et maintenant, ce qu'il déclare ici à Marie, il dit « je suis la résurrection et la vie ». C'est pour ça que je vous dis que dans ce passage-là, Jésus fait beaucoup plus que nous annoncer « si vous croyez en moi, un jour vous allez ressusciter ». Non, il est en train de dire « c'est moi que vous voulez connaître. C'est moi que vous voulez rencontrer ». Me connaître moi, c'est déjà avoir la vie. Me connaître moi, c'est déjà avoir l'assurance de la vie éternelle. Parce que c'est moi qui suis la vie. Et Jésus avait commencé à révéler ça lorsqu'il dit, le Père a donné toute autorité au Fils. Et lorsque les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, les morts vont revenir à la vie. Et ce que Jésus fait dans cette scène-là, c'est qu'il va ressusciter Lazare pour en faire la démonstration, pour le démontrer. Donc, je pense que la deuxième partie ou la première partie du second verset, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt » parle effectivement de cette résurrection qui nous est annoncée. Celui qui reconnaît qui est Jésus, qu'il est Dieu le Fils et qui croit en lui, même s'il meurt, va vivre. Même s'il passe par la mort, il va ressusciter. Et les chrétiens croient ça depuis 2000 ans. Tout à l'heure, je le disais, pour un chrétien, mourir, c'est pas la fin du monde. Littéralement, c'est pas la fin du monde. On était à une rencontre de pasteurs la semaine dernière. Et puis, le sujet de l'enseignement, c'était sur l'amitié. Puis, dans le fond, il avait été demandé à un de mes grands amis, François Turcotte, d'enseigner sur l'amitié parce que j'ai une amitié particulière avec deux gars, Stéphane Gagné, François Turcotte, puis moi, bon, on est les trois, ils nous appellent comme ça, très proches, on développe cette amitié-là, je vous en ai parlé souvent. Mais écoutez, avant le dernier enseignement que François allait apporter environ 10 minutes avant, Stéphane, qui se tenait environ à 10 pieds de nous, fait une syncope. Ça veut dire qu'il perd connaissance, puis il tombe comme ça, boum, par terre. Puis là, tout le monde court autour de lui, puis il leur tourne sur le dos, puis il y a les paupières qui s'en vont comme ça, puis là, les infirmiers arrivent, des tapes sa gueule, puis son épouse, qui est infirmière, elle s'amuse avec son sternum à fond. Ça prend vraiment un instant avant qu'il revienne. Finalement, tout ça, il s'en revient, tu sais, puis on était inquiets, les ambulanciers sont venus, il est allé faire des tests pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais le lendemain, on était au déjeuner, puis Stéphane me dit... Il dit, « Sais-tu ce que j'ai trouvé vraiment le plus spécial? » Il dit, « Il y a un moment où j'étais couché par terre, j'entendais plus rien, mais j'avais conscience d'être, d'exister. » Puis là, je me disais, « Ah, c'est-tu comme ça que ça se passe? » Il dit, « Je suis prêt. » Puis là, j'ai commencé à entendre vos voix qui revenaient. Parce que pour les chrétiens, on a vraiment la conviction que mourir, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. En fait, quand j'étudiais le passage cette semaine, je me suis dit, je ne sais pas si vous avez des fois, je me pose des questions niaiseuses quand j'étudie la Bible, puis j'arrivais dans le passage, puis là, je me suis dit, « Ouais, mais Lazare, là, as-tu été content d'être ressuscité vraiment? » Tu sais, il sort de là, puis je ne sais pas, il me semble qu'il se dit, « C'est quoi la joke? C'est rendu avec Dieu! » Tu sais, puis j'imagine juste la relation familiale dans les semaines qui suivent où sa sœur dit « Oui, mais on t'avait perdu. Oui, mais j'étais heureux. Oui, mais on s'ennuyait. Toi, moi, j'étais tellement bien. Pourquoi vous m'avez fait ça? » Counseling familial, juste pour restaurer ça. Le gars est rendu, tu sais, bliss, il est avec Dieu. Pas sûr que Lazare était content. Comme je vous dis, il a fallu qu'il meure en plus, tu sais. Parce que Lazare, moi, je ne l'ai pas rencontré. Il ne se promène pas parmi nous. Il est mort éventuellement. Je ne sais pas à quel âge, mais il est mort. Pour les chrétiens, mourir, ce n'est pas la fin du monde. C'est un battement de paupières. C'est tout. C'est un battement de paupières et j'entre dans la présence de Dieu. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ qui est ma résurrection. Et c'est ça que les chrétiens célèbrent à Pâques. À Pâques, on célèbre la résurrection de Jésus parce que pour nous, sa résurrection, c'est la prémisse de notre résurrection. La résurrection de Jésus, c'est l'assurance que moi, je vais pouvoir ressusciter après ma mort. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne mène à rien. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de lire la Bible, d'étudier la Bible, de lire des arguments contre pour développer une conviction. T'en viens pas à croire à ça simplement comme ça. Tu prends le temps d'examiner les Écritures. Hey, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans cette église-ci. Je venais à l'église à 7 ans. Mais moi, à 16 ans, là, c'était comme, c'est-tu vrai cette affaire-là? Je veux dire, comme intuitivement, je veux bien y croire parce que ma mère m'enseignait ça depuis mon enfance. Mais est-ce que c'est crédible? C'est quand même flyé cette affaire-là. C'est quand même capoté. Puis tu prends le temps de faire des recherches avant d'adhérer, puis d'avoir une foi, c'est vrai, mais une foi qui te semble la seule conclusion raisonnable. Tu peux croire qu'on vient de nulle part, tu peux croire que Dieu n'existe pas, tu peux croire dans l'absence totale d'un Créateur. Ça peut être ta foi, chacun sa foi. Après réflexion, après recherche, ma conclusion, c'est que la seule foi raisonnable, c'est de croire dans quelque chose comme ça. Parce que ça m'aurait demandé plus de foi de croire dans l'inverse. C'est pour cette raison que les chrétiens vont vers la mort avec calme, généralement. Confiant. Un peu de papillon dans l'estomac, on s'en va vers l'inconnu, mais serein de savoir que je m'en vais rejoindre le Seigneur. Et si tu veux avoir cette paix-là pour toi-même, si tu veux avoir cette assurance, crois en Jésus. Si tu demandes, moi, mais comment on fait pour croire en lui? Lis l'Évangile de Jean. Lis l'Évangile de Jean. Si tu dis, je ne m'y retrouve pas, accroche un ami qui est chrétien. Allez prendre des cafés ensemble. Tu peux lui dire, regarde, là, je ne m'engage à rien. Là, je veux juste comprendre. Tu vas être tellement heureux. Ça va être le plus beau cadeau de l'année que tu vas y faire. Puis peut-être que le Seigneur va te faire un beau cadeau en retour. Tu verras. Ça, c'est entre toi et Dieu. Maintenant, le mot résurrection est expliqué par la première partie du verset. Et je pense que le mot « vie » est expliqué par la deuxième partie du verset qui dit « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Je m'excuse. Qui dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pour comprendre ce passage-là, il faut savoir que Jésus, particulièrement dans l'Évangile de Jean, mais à travers tout le Nouveau Testament, puis même dans l'Ancien Testament, ce qui est enseigné, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, le salut, être sauvé, ce n'est pas juste quelque chose de futuriste. Ce n'est pas juste quelque chose pour l'avenir quand je vais mourir. C'est quelque chose qui commence à s'expérimenter maintenant. La promesse que Christ fait, c'est que quand tu crois en lui, il y a une vie nouvelle qui va commencer en toi. Et donc, je pense que c'est de ça qu'il est en train de parler ici. Celui qui vit en moi, celui qui croit en moi, dans un certain sens, ne mourra jamais. Parce que sa vie éternelle a déjà commencé ici-bas. Et ça, c'est un aspect super important du salut. C'est ce qui fait, comme chrétien, que je peux avoir la joie, je peux avoir la paix à travers les difficultés de la vie, non seulement en regardant vers l'avenir, mais parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une vie nouvelle qui a commencé. Au début de son évangile, au début de l'évangile de Jean, Jean dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, » et il parle de Jésus, il faudrait aller voir tout le contexte. « À ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Quand tu crois en lui, bon, il y a un prochain Marvel qui sort bientôt, mais il y a un super pouvoir qui t'est donné quand tu crois en lui. Un pouvoir que tu ne peux pas avoir autrement, c'est celui de devenir enfant de Dieu. Selon les Écritures, tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Magnifiques, sacrés, créés à l'image de Dieu. Mais seuls ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu. Et si tu crois en lui, tu as ce pouvoir-là. Et puis Jésus continue en disant, « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Mais de Dieu. Et donc, ce que Jésus enseigne dans son évangile, c'est que lorsque tu places ta foi en Christ, l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, vient faire sa demeure en toi. Je sais que c'est flyé, mais si Dieu t'accorde la grâce de l'expérimenter, ben, tu vas être un flyé comme nous. Puis c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment génial. Vivre de sa vie en toi. Dans Jean, au chapitre 7, verset 38, Jésus dit ceci, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, ce que Jésus a enseigné, c'est que lorsque je vais croire en lui, l'Esprit va m'être donné et une nouvelle vie va commencer en moi. On a assisté en fin de semaine dernière. Hey, je vais parler de sport. Soyez gracieux si vous savez que je suis vraiment, je suis un expert en sport. D'accord? C'est qui a gagné le Masters? Tiger Woods. Vous venez de me sauver. J'avais juste Mike Tyson dans la tête. Je suis vraiment désolé. Tiger Woods gagne le Masters. Puis les titres de journaux, c'était quoi? A Story of Redemption. Une histoire de rédemption. Parce que ce gars-là revient vraiment de loin. Sérieusement, là, je ne suis pas ça, mais là, je me suis intéressé, puis j'ai commencé à lire là-dessus, puis j'ai dit, c'est pas possible, là. C'est quand même quelqu'un d'admirable dans sa volonté, pour pouvoir revenir d'où il est revenu, pour pouvoir performer les opérations, l'entraînement. Je veux dire, en plus de ça, son image qui était totalement défaite. Puis cet homme-là s'est donné à fond. Puis dans un sens, il y a quelque chose de vraiment noble. C'est comme une nouvelle vie qui commence. Il s'est refait, cet homme-là. Mais ce que les chrétiens croient, c'est pas moi qui est appelé à me refaire. C'est pas par ma propre volonté que je vais me recréer moi-même. Ma volonté va être appliquée à croire dans une autre personne que moi. Fait que tu sais, le slogan du jour, c'est quoi, hein? Crois en toi. Crois en toi. Ah, les chrétiens, on a comme un regard un peu cynique envers nous-mêmes. Je me regarde, tu sais, puis je dis, ah, je suis une créature merveilleuse, c'est Dieu qui m'a créé. Mais souvent, je me regarde, puis je dis, ouais, pas tant que ça, tu sais. Pas tant que ça, tu sais. Parce que je suis un pécheur. Je me déçois moi-même, je déçois les gens autour de moi, je fais de la peine aux gens, je suis comme, j'ai des idéaux, j'atteins pas mes idéaux. Et comme chrétien, ce que je décide de faire, c'est pas de croire en moi, c'est de croire en lui, en Jésus-Christ. Parce que lui est la résurrection et la vie. Et ce que les Écritures me disent, c'est qu'au moment où je crois en lui, je vais vivre par ma foi en lui. Je vais vivre par ma foi en lui, et par conséquent, d'une certaine manière, je ne mourrai jamais. La vie que j'ai commencée maintenant va se continuer jusque dans l'éternité. Et je pense que cette rencontre-là que Marie a eue avec Jésus, Jésus voulait lui dire, « Regarde, je comprends que tu souffres. » En fait, Jésus va arriver devant le tombeau puis il va pleurer lui aussi. Et je pense qu'il pleure parce qu'il voit la dévastation du péché, il voit la réalité de la mort, il voit combien les êtres humains sont démunis. Et il sait, parce que dans le passage, c'est dit même qu'il est... Il frémit, lorsque c'est écrit qu'il frémit dans son esprit, c'est pas bien rendu, c'est il fut irrité dans son esprit. Il y a comme un scandale en lui. Jésus est là, puis pensez-y une seconde. Si Jésus est la résurrection et la vie, il est là. Il est là. Tournez-vous vers lui. Arrêtez d'être distrait, arrêtez d'être ailleurs, arrêtez de courir après n'importe quoi. Il est là, il est présent, croyez en lui. Et ce que Jésus a voulu faire pour Marie, il a voulu lui dire, « Marie, laisse-moi te donner le plaisir pour toi, peut-être le malheur pour Lazare, de te redonner ton frère. Mais s'il te plaît, Marie, reçois une vérité beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus précieuse pour ton âme. C'est moi la résurrection et la vie. Et si tu crois en moi, non seulement tu mourras jamais, même si tu meurs, tu vas revivre. Mais déjà, tu vas commencer à vivre d'une vie nouvelle. » Et donc, ce que Jésus fait dans ce passage, c'est qu'il nous invite à le connaître. Et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Tantôt, on va avoir Christelle qui va nous partager son témoignage. On va entendre le témoignage de quelqu'un qui a connu Jésus. Son histoire, elle, comment elle l'a vécu personnellement. Et ce n'est pas tout le monde qui a cru en Jésus. Comme je l'ai mentionné tantôt, les Juifs qui sont là sont convaincus qu'il fait des miracles, ils se disent « on est fait, il faut vraiment qu'on trouve un moyen de l'éliminer parce que là, vraiment, il s'en vient trop crédible, le bonhomme. » Fait qu'ils font des plans pour l'éliminer. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de croire en lui. Puis une fois qu'on a cru en lui, il nous demande d'aller puis d'aller annoncer l'Évangile, d'aller annoncer cet Évangile-là. À la toute fin de son Évangile, je termine avec ce passage, dans Jean 20, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il est avec ses disciples. Puis on lit au verset 19, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, parce que là, les Juifs voulaient s'en prendre aux disciples de Jésus aussi. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains qui avaient été percées, son côté qui avait été percé, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Voyez-vous, il y a deux réponses sensées à la personne de Jésus-Christ. Croire en lui et parler de lui. C'est les deux seules réponses sensées. Croire en lui comme Thomas tombé. Thomas qui ne croyait pas, tu sais, puis il dit, « Au fond, j'y touche. » « Ouais, mais vas-y, touche. » Puis là, Thomas tombe par terre, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Croire en lui et puis parler de lui. Et c'est ça qu'on fait ensemble ce matin. À travers nos chants, à travers notre louange, on est en train de déclarer que nous croyons en lui. On est en train de le célébrer, de l'adorer. En soulignant la part qu'on est en train de dire, « Seigneur Jésus, on croit en toi et on vit déjà cette vie nouvelle-là. » Et à travers la prédication, à travers le témoignage, à travers le baptême, on parle de lui, on l'annonce. Faites ça cette semaine. Partez pour la semaine en croyant en lui puis en l'annonçant. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, on veut t'adorer, on veut te célébrer. Tu es la résurrection et la vie. Tu es le grand je suis. Tu n'es pas simplement un homme, Jésus de Nazareth, qui a marché parmi les hommes. Avant d'être un homme, tu étais déjà, tu es depuis toujours. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin, on veut célébrer ta résurrection. Seigneur, tu as saisi nos cœurs et tu nous as donné cette foi pour croire en toi. Et nous avançons dans la vie, Seigneur, en jouissant de cette vie nouvelle en nous, qui nous permet de tourner la page sur notre ancienne vie, puis commencer une vie nouvelle avec toi, puis grandir en toi, Seigneur, et vivre de cette vie, t'adorer, t'annoncer, te célébrer, Seigneur. Seigneur, reçois nos louanges, sois béni par ce témoignage de vie qu'on va voir tout à l'heure. Seigneur, sois béni par nos vies à nous, reçois nos louanges ce matin. Et parle à nos cœurs. Je t'en prie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.